Je vais prier. Seigneur, merci pour ce jour où nous pouvons nous réunir en ton nom. Et merci pour tous les jours que tu nous donnes, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, nous souhaitons nous rapprocher de toi. Seigneur, nous avons besoin de te connaître mieux. Nous avons besoin, Seigneur, que ta présence en nous soit forte, intense, jour après jour, quotidiennement. Seigneur, et que notre vie puisse exprimer la vie de Christ. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Le contexte, c'est lorsque donc Jean-Baptiste est avec ses disciples. Il voit passer une première fois Jésus, hein, au verset 29. Et là, il dit, donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, le lendemain, il revoit passer Jésus. Et donc, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître donc, « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent. Et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Dans son évangile, Jean utilise souvent des dialogues pour faire entre les personnes, donc, ou des dialogues entre Jésus, les disciples, ou Jésus avec la foule, pour faire passer des idées. Pour communiquer, n'est-ce pas, le message qu'il veut donner. Et là, nous avons ce dialogue, et notamment cette question. Ces deux disciples de Jean-Baptiste quittent Jean-Baptiste pour suivre Jésus, et Jésus les voit, et il leur pose cette question, « Que cherchez-vous ?» Jésus, dans tous ses évangiles, dans l'évangile de Jean notamment, si vous lisez bien, pose souvent cette question, de différentes manières, mais toujours il questionne notre recherche. Et parce qu'il sait que sa personnalité est attractive, mais il connaît aussi le cœur des hommes. Et donc, le Seigneur nous pose à nous aussi ce matin la question. Que cherchez-vous ? Et je pourrais aller jusqu'à dire, pourquoi vous êtes là ce matin ? Vous cherchez quoi ce matin ? À tranquilliser votre conscience pour être sûr de ne pas rater un culte parce que sinon vous allez vous sentir mal toute la semaine ? Ça existe. Ça, c'est l'esprit superstitieux, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient ici le dimanche matin ? Ou peut-être on cherche rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Jésus n'a pas demandé « Qui cherchez-vous ? » Il a demandé « Que cherchez-vous ?» Et plus tard, il demandera « Qui cherchez-vous » Vous savez quand ? Lorsqu'il sera dans le jardin de Gethsémané. Lorsque les soldats du temple viendront pour le chercher, pour se saisir de lui, pour le crucifier, il posera la question deux fois. Qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Il est bon pour la croix, celui-là. Le Seigneur sait qu'il attire à lui toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui sont séduits par sa capacité à faire des miracles, n'est-ce pas ? C'était le cas de Nicodème. Il y a ceux qui sont séduits par les avantages matériels qu'ils peuvent retirer de sa personne. C'est le cas de la foule, n'est-ce pas, à qui il a donné du pain et des poissons en quantité. Et il y a ceux qui cherchent Jésus pour trouver chez lui la faille dans ses actions ou dans ses propos, afin de finalement pouvoir le diffamer et le crucifier. Mais le Seigneur sait que lorsqu'il s'adresse aux hommes et aux femmes, il a affaire à des âmes qui sont profondément corrompues, des esprits calculateurs, séducteurs, prisonniers de leurs péchés et de liens démoniaques. Et c'est pour cela que quand Jésus parle, c'est pas pour tenir une conversation de salon. Jésus prononce des paroles destinées à répondre directement aux besoins réels et souvent inconscients des hommes et des femmes qui s'adressent à lui. Et Jean, l'évangéliste, avait bien compris cette façon de faire de Jésus. C'est peut-être pour ça qu'il était le disciple que Jésus aimait, parce qu'il était peut-être celui qui avait le mieux compris ce qui était Jésus. Jésus ne veut pas s'adresser à nos émotions. Il ne veut pas nous séduire avec une conversation positive, mais il veut défier nos raisonnements humains et provoquer un cataclysme dans notre conscience morale. Et c'est pour ça qu'il a posé la question « Que cherchez-vous ? » Pas dans le sens « Est-ce que vous voulez plus d'informations sur moi ? » N'est-ce pas ? Pour ça, vous allez dans Google, vous tapez « Jésus » et vous allez avoir des informations sur Jésus. Mais réellement, la question que pose Jésus, elle est plus forte encore que ça. La traduction que nous avons en français n'est pas adéquate. Les Anglais posent la question d'une autre façon. « What seekest you ?»« Qu'est-ce que tu recherches ?» Et c'est ça le mot, n'est-ce pas ? C'est rechercher quelque chose, comme si on cherchait un objet qu'on a perdu. Vous avez déjà cherché un objet précieux quelque part ? Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas, que de chercher dans tous les coins pour le retrouver ? Eh bien, c'est de ça dont il s'agit. C'est cette question-là que Jésus pose. Est-ce que vous êtes en quête de quelque chose ? Est-ce que vous êtes dans une recherche active de quelque chose ? Jésus avait compris que la démarche de ces deux hommes était sérieuse. Ils avaient un but. Ils voulaient le connaître, lui. Et à la question, donc, que cherchez-vous ? Jésus obtient la réponse suivante. Où demeures-tu ? Il ne faut pas se tromper, les disciples ne voulaient pas vraiment savoir où habitait Jésus pour visiter son appartement. Mais ils cherchaient à savoir s'il était possible pour eux d'avoir un moment et un endroit avec lui où ils pourraient être seuls dans sa présence pour savoir s'il était véritablement le Messie qu'ils attendaient. Alors Jésus leur répond la chose suivante. Venez et voyez. N'est-ce pas ? Ceux qui sont venus après qu'il ait fait la multiplication des pains, Jésus a dit, il ne se fiait point à eux. parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils connaissaient le cœur des hommes. Mais là, il dit, venez et voyez. Et ils allèrent. Et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent. Il faut juste noter la succession là des mots. Ils allèrent, ils virent, ils restèrent. Trois mots, une phrase qui exprime tout. Est-ce que les gens ont envie de rester chez vous lorsque vous leur demandez de venir ? Ce n'est pas nécessairement négatif. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé à Jésus qui n'ont pas eu envie de rester avec lui. Pourquoi ? Parce que Jésus parle à la conscience. Il parle aux besoins réels. Et ça, ça dérange. Allez voir, restez. Ou vous pouvez traduire « rester » par « demeurer ». Dans le nord de la France, où nous avons vécu 17 ans, on ne vous demande pas « où est-ce que tu habites ?» On te demande « où est-ce que tu restes ?» C'est comme ça qu'on pose la question. « Où est-ce que tu restes ?» N'est-ce pas le « reste » Je ne sais pas, en allemand on dirait quoi ?« Heimat », l'endroit où on est bien, l'endroit de la demeure, l'endroit où on se sent chez soi, n'est-ce pas ? C'est là que je reste. C'est là que je demeure. On peut avoir un appartement quelque part, vivre dans un endroit, et pas se sentir chez soi vraiment. Et puis on peut habiter dans un endroit voilà, quelconque, et pourtant se dire, mais là c'est chez moi, je me sens bien. Rester. Et cette démarche, n'est-ce pas, d'aller, de voir et de rester, c'est sans doute la bonne démarche si on veut réellement connaître quelqu'un et pour pouvoir ensuite se prononcer sur cette personne. Donc André et Simon-Pierre, puisqu'il s'agit d'eux, n'ont pas laissé passer cette occasion de connaître Jésus, de rester avec lui, lui poser des questions pour se laisser convaincre qu'il était bien le Messie. Et le résultat, c'est quoi ? On le voit plus tard, n'est-ce pas, au verset 41. Nous avons trouvé le Messie. Ce fut lui qui rencontra son premier. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et ensuite, au verset 45, à nouveau, Nathanaël lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Ils sont restés et ils ont trouvé. Ils ont trouvé le Messie. Les pharisiens, n'est-ce pas, n'ont jamais fait cette démarche. Ils étaient drapés dans leurs préjugés, dans leurs certitudes, et ils ne se sont jamais laissé la possibilité d'être convaincus par Jésus. Et leur tort, c'est d'avoir jugé un individu sans chercher à le connaître, et ainsi ils ont laissé passer l'occasion du salut pour Israël. Combien de fois avons-nous été en contact avec la parole du Seigneur ? Et combien de fois l'avons-nous ignorée ? Et je ne parle pas seulement des non-chrétiens. Combien de fois est-ce que Dieu nous a parlé et nous avons bouché nos oreilles, nous avons fait comme si nous n'avions rien entendu ? Bien-aimés, quand nous lisons les Écritures, est-ce que nous lisons pour chercher Jésus ? N'est-ce pas ? Jésus l'a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, mais vous ne venez pas à moi. Est-ce que nous lisons les Écritures pour chercher Jésus ? Ou est-ce que nous lisons comme des robots ? Est-ce que nous arrivons encore à être surpris en lisant la parole ? Ou est-ce que nous avons tellement de filtres dans nos têtes ? Le filtre de la dénomination, le filtre de la religion, le filtre de mes préjugés, le filtre des choses que j'aimerais entendre et surtout pas les autres choses. Quelle est notre quête de vérité ? Quelles sont nos questions essentielles ? Quelle est la recherche d'espérance que nous avons ? Si vraiment nous sommes à la recherche de Jésus, Jésus va questionner nos motivations. Il va bousculer nos consciences. Il va nous déstabiliser, nous provoquer jusqu'à ce que nous devenions des croyants affermis. Est-ce que nous voulons réellement demeurer avec Jésus ? N'est-ce pas ? Et ce terme « demeurer » a dans l'évangile de Jean un impact, une importance tout à fait particulière. Parce qu'évidemment, la demeure de Jésus, ce n'est pas sur la terre qu'elle est. Mais elle est avec le Père. La demeure de Jésus, ce n'est pas une habitation terrestre. Ce n'est pas non plus les nuages au-dessus de nous ou le ciel. La demeure de Jésus, c'est la relation et l'attachement avec le Père. C'est là qu'il habite. C'est là qu'il reste. C'est là qu'il est heureux. C'est là qu'il est dans la félicité absolue avec le Père. Et selon ce même principe de relation et d'attachement, la demeure du croyant n'est pas cette vie sur la terre, ce n'est pas nos maisons, ce ne sont pas nos biens. La demeure du croyant, c'est notre relation et notre attachement à Christ. Dans cet évangile de Jean, nous apprenons que la relation entre le Fils sur la terre et le Père au ciel, donc quand Jésus était sur la terre, cette relation qu'il avait avec son Père, c'était une relation de foi, une relation à la fois de dépendance et d'égalité, dans laquelle le Fils montre un abandon total à la volonté de son Père. À plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, Jésus dit qu'il est complètement dépendant du Père et obéissant dans tout ce qu'il fait. Jean 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Je me souviens la première fois où j'ai compris ce texte. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et moi, j'avais donné toute ma vie au Fils, à Christ. Et là, il me dit, il ne peut rien faire. Parce que je n'avais pas compris cette soumission qu'il avait au Père, cette dépendance absolue qu'il avait vis-à-vis du Père, et cette façon qu'il avait de demeurer en permanence dans le Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et au verset 30, il se répète, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et vous avez plein d'autres versets, Jean 8, 28, Jean 12, 49, Jean 14, 10, je vais encore lire celui-là. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Il y a cette relation parfaite, intime, cet attachement du Fils au Père. Et il y a aussi le fait que le Père est dans le Fils et que le Fils est dans le Père. Et ce sont les œuvres que fait le Fils qui sont la preuve de cette communion entre le Père et le Fils. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui ne croyaient pas. Les pharisiens ne voulaient pas croire qu'il était le Messie, qu'il venait de Dieu, qu'il était Dieu. Alors Jésus leur dit ça, Jean 10, 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En quelque sorte, il dit, écoutez, si vous ne m'aimez pas en tant que personne, c'est une chose. Mais reconnaissez que les œuvres que je fais sont les œuvres que le Père aurait fait. Soyez honnête. Jésus exhortait, n'est-ce pas, les religieux qui ne voulaient pas écouter ses paroles à le juger par les œuvres qu'il accomplissait. Parce que c'était de toute évidence des œuvres dignes de Dieu, permettant d'attester la présence de Dieu en lui. La preuve qu'un croyant est en Christ, c'est qu'il fait les œuvres de Christ. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, Jésus fait des œuvres, mais ces œuvres, ce n'est pas lui qui les fait, c'est le Père qui les fait en lui. Et nous, lorsqu'il nous dit « Vous ferez aussi les œuvres que je fais », eh bien finalement, ce que nous faisons, ce ne sont même pas les œuvres de Christ, ce sont les œuvres de Dieu, nous aussi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais ce sont les œuvres que nous faisons, ou celles que nous ne faisons pas, qui parlent de notre salut. Dans Éphésiens 2, verset 8, vous lisez, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On n'est pas sauvés par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais les œuvres, c'est ce qui prouve notre salut. La chose absolument extraordinaire, c'est que cette relation donc qui existe en Jésus et dans le Père, cette relation nous est devenue accessible grâce à Jésus-Christ. Et il y a donc une communion entre Dieu et le croyant. Et cette communion, n'est-ce pas, Jésus l'a prié. Il a prié pour que les disciples et nous-mêmes nous puissions être en communion avec le Père dans Jean 17, au verset 21. Afin donc, que tout soit un Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et aussi Jean 14, 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Et au verset 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Ainsi, nous sommes appelés à demeurer, n'est-ce pas ? Nous ferons notre demeure chez lui, pardon. Et donc, nous sommes appelés à demeurer en Christ. Et le texte qui parle le mieux de ça, demeurer en Christ, vous le connaissez, n'est-ce pas ? C'est Jean 15, le texte du cep et des sarments. C'est un texte qui est très fort, mais ce n'est pas que le texte qui est très fort, c'est tout le contexte qui est très fort, n'est-ce pas ? Parce que depuis le chapitre 13, Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples. Il est à quelques heures de la crucifixion. Et il leur parle. Et, n'est-ce pas, il s'exprime, il exprime toutes ces choses qui sont extrêmement importantes. Et là, il leur donne cette image qui est tirée, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle une métaphore du monde viticole, pour expliquer ce que ça signifie que demeurer en Christ. L'apôtre Paul, plus tard, développera cette même idée et développera la doctrine, n'est-ce pas, de la position spirituelle en Christ. Et notamment, vous lisez ça dans Éphésiens, au chapitre 1, où il est question d'être en lui, d'être en Christ. Vous avez au moins une dizaine de fois, il parle de ces choses. Et donc, c'est la même idée qui est développée. Et donc, j'aimerais qu'on lise ce passage. Je ferai quelques commentaires au fur et à mesure que je lirai. Je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. J'aimerais juste faire un point sur les termes. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Là, le terme, c'est katero en grec, qui signifie la même chose que le prochain terme lorsqu'il dit « déjà vous êtes purs ». C'est les deux mêmes mots. Ok ? Émonder, en réalité, ça devrait être traduit par purifier ou éclaircir, quelque chose comme ça. Les deux termes sont les mêmes. Et donc, l'idée que Jésus apporte, c'est que l'élagage, ou lorsqu'on éclaircit le pied de vigne en enlevant tout ce qui est inutile, ou pour la fructification, eh bien, c'est cette action dont il parle d'émonder. Et lorsqu'il dit « déjà vous êtes purs », il dit « déjà vous êtes élagués, déjà vous êtes éclaircis à cause de la parole que je vous ai annoncée ». C'est le même mot, c'est la même chose. Donc, le terme « émonder » et « purifier » ont la même racine, de sorte que quand Jésus dit qu'ils sont purs, donc il a déjà agi en eux pour séparer ce qui est mauvais, ce qui est bon, et pour que ce qui reste porte du fruit. Avant, j'ai dit que Jésus, n'est-ce pas, va parler à notre conscience. Il va bousculer nos consciences, il va bousculer nos certitudes. Et je pense que parfois il le fait et que ça peut nous paraître même très violent. Mais l'objectif de Jésus, ça n'est pas de nous faire du mal. C'est de faire en sorte que ce qui fait en nous, c'est-à-dire cet élagage qu'il est en train d'accomplir, eh bien, porte plus de fruits. En fait, c'est pour notre bien. C'est par amour qu'il le fait. N'est-ce pas? Lorsque l'arboriculteur va dans son champ, dans son verger, et qu'il commence à couper, je pense que n'importe quel observateur qui ne sait pas ce qui est en train de se passer pourrait se dire, mais il est en train de massacrer ces pauvres arbres qui ne demandent qu'une chose, c'est de grandir. C'est l'impression que ça peut donner, n'est-ce pas? Moi, j'en ai vu certains faire. Ça va vite, et puis il y avait quelque chose, et tout d'un coup, il ne reste plus grand-chose. Mais ça peut paraître très violent, n'est-ce pas, comme action. Mais en réalité, on le sait, n'est-ce pas? C'est pour le bénéfice de l'arbre. Et n'est-ce pas, c'est le Père qui est le vigneron. C'est lui qui coupe. Mon Père est le vigneron. C'est lui qui fait les coupes, qui fait les tailles. Donc, n'est-ce pas, nous pouvons dire que parfois nous souffrons, que parfois c'est difficile. Mais l'idée, elle est là, n'est-ce pas? C'est que demeurer en Christ, c'est être confronté à Christ et il va s'occuper de nous. Il va s'occuper de nous vraiment. Il va prendre soin de nous. Et parfois, ça va faire mal. Parfois, ça va nous faire souffrir. N'est-ce pas? Une fois élagués, les arbres vont encore passer un hiver. Avec des fois des températures très très basses. Et quand il a fait quoi? Moins 15 presque l'année dernière, l'hiver dernier, eh bien on le sent, n'est-ce pas? C'est froid. C'est froid et peut-être qu'on se sent seul. On ne se sent pas aimé. Il y a toutes ces choses. C'est l'action de Christ. C'est l'action de Dieu dans nos vies. La pression de la vie, les difficultés que nous rencontrons au travail, dans nos champs, dans nos relations. Toutes ces situations sont utilisées par Dieu pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il veut nous amener à la perfection. Et vous savez que Jésus a vécu ça. Lui-même. Hébreux 5:8. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Les choses qu'il a souffertes, ce n'est pas la croix. C'est ce qu'il a vécu sur la terre. C'est d'être au contact d'hommes et de femmes comme vous et moi qui l'a fait souffrir. À la croix, l'obéissance était accomplie, n'est-ce pas? Il n'y avait plus besoin de souffrance autre. Dieu nous aime et il veut nous amener à la perfection. Je ne parle pas d'une perfection absolue, évidemment, n'est-ce pas? Mais il s'agit de la perfection de Christ en nous. Il s'agit de cette perfection qui accomplit les choses de Dieu, les œuvres de Dieu, qui porte les fruits de Dieu. Demeurez en moi, verset 4, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous, les disciples, c'est un commandement. Demeurez en moi si vous voulez que je demeure en vous. N'est-ce pas, là, il y a quelque chose qui nous pose problème. Parce que si on croit à la sécurité éternelle du croyant, eh bien ici, on parle de la persévérance du croyant. Et les deux choses sont mises en parallèle, n'est-ce pas? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Et c'est tout le long de ces versets. Il y a donc ces deux notions, la sécurité éternelle du croyant et la persévérance du croyant qui marchent ensemble et qui sont indissociables. Si vous les séparez, c'est une fausse doctrine que vous annoncez. Et Jésus commande aux disciples de demeurer en lui. Au verset 16, Jésus dit, « Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Dans le sens que votre fruit soit constamment là, qu'il y ait du fruit en permanence. Demeurer, c'est ça, hein, c'est d'être en permanence du fruit. Et nous l'avons vu, la condition pour porter du fruit, c'est de demeurer attaché au cep. N'est-ce pas ? Si le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est la condition. Demeurez en Christ. Restez attachés au cep. Verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, n'est-ce pas, disait lui-même, je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce que nous, vraiment, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose de nous-mêmes, alors que Jésus lui-même disait qu'il ne pouvait pas? Porter du fruit, c'est une promesse. Quel que soit l'endroit où Dieu place le croyant qui demeure en lui, il va porter du fruit. La condition, c'est pas est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis un prédicateur dans une église où il y a beaucoup de monde, est-ce que je suis quelqu'un qui est très actif, très entreprenant pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. La seule chose qui compte, c'est est-ce que je demeure en Christ? Est-ce que Christ demeure en moi? Et ce qui vient naturellement de cela, c'est de porter du fruit. Même si on est en prison. Pour notre foi, j'espère. Parce que si on y est pour d'autres raisons, c'est un problème, n'est-ce pas? Porter du fruit est une promesse, quel que soit l'endroit où Dieu place le croyant qui demeure en lui. Il portera du fruit. Pas nécessairement en grand nombre, mais il en porte. Sans demeurer en Christ, il n'y a pas de fruit, en tout cas pas de bon fruit. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'enfer. J'en sais rien. Parce qu'on ne me l'a pas révélé, ça. Je ne sais pas. Mais ce qui est marqué, est marqué. Et c'est difficile, n'est-ce pas, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, de qui est-ce que Jésus parle ?» On sait que, fin du chapitre 13, Judas s'est déjà levé pour aller chercher les soldats. Est-ce qu'il est en train de parler de Judas ? Peut-être. Est-ce qu'il est en train de parler d'Israël, qui n'a pas demeuré en Dieu? Ou est-ce qu'il est en train de parler de tous ceux qui, après lui, vont exprimer une forme de foi, mais qui ne sont pas réellement attachés à Christ? Je ne sais pas. Mais si vous demeurez en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu, et il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors ça, c'est génial, n'est-ce pas? Les jeunes chrétiens, ils aiment beaucoup la deuxième partie du verset. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais la condition, elle est là, n'est-ce pas? Et c'est aussi pour nous qui sommes plus avancés peut-être. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demeurez en Jésus et demeurez dans la parole, c'est la même chose. Je ne suis pas en train de dire demeurez en Jésus et lire la Bible, c'est la même chose. Non. Demeurez en Jésus et demeurez dans la parole, c'est la même chose. Pourquoi ? parce que la parole, vous savez ce que c'est dans Jean, n'est-ce pas? La parole était celle qui était présente dès avant la fondation du monde. C'est la parole qui a créé le monde. C'est dans cette parole qu'il est question de rester. C'est ça qui est la même chose. Et alors on comprend, n'est-ce pas, que ces paroles ont une fonction créatrice. Et c'est pour ça qu'il peut dire, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Si vous êtes dans la parole de celui qui a créé le monde par sa parole, eh bien oui, vous recevrez ce que vous demandez. Vous comprenez que c'est le caractère de Christ. C'est ce Christ qui recherche uniquement la volonté de Dieu dont il est question. Et c'est à ce moment-là que vous recevrez ce que vous avez demandé. Pas pour nos besoins matériels et égoïstes. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, tu sais Daniel, en fait on était ensemble dans une belle maison en Angleterre, 4 étages, très belle maison qu'un chrétien prêtait pour l'activité, les activités qu'on est en train de faire. Et il regarde autour et dit, oh, alors. Il dit, c'est magnifique ici. Alors je lui ai dit, oui, ben, le Seigneur l'a béni. Alors il me dit, tu sais, la richesse, c'est bien souvent pas une bénédiction, c'est une malédiction. Et, n'est-ce pas, la pire des choses, en fait, qui puisse arriver à un croyant, c'est que le Seigneur réponde à ses besoins matériels. Parce que ça, c'est le moyen facile pour Satan de prendre une personne et de la détourner de, justement, de cette demeure en Christ pour qu'il se repose sur les biens qu'il a acquis et que le Seigneur peut-être lui a donné. Les Chinois, lorsque le communisme de Mao a cessé, les chrétiens chinois, les pasteurs chinois n'avaient qu'une seule crainte, n'est-ce pas? C'était pas la persécution. C'était que le matérialisme vienne prendre les enfants dans les églises pour les en sortir. N'est-ce pas? Le matérialisme est une puissance. Et si nous sommes des chrétiens matérialistes, eh bien nous sommes dominés par cette puissance. Et nous avons besoin d'être délivrés de ça. Le Seigneur va donner des richesses à ceux qui savent les gérer, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout attachés à ces richesses. Et on a la même idée, n'est-ce pas, dans d'autres endroits, dans la parole, et notamment dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, d'accord, c'est la même idée, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et dans Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas, là c'est l'aspect négatif, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Souvent, on se pose la question, mais c'est quoi les fruits? Est-ce que c'est le nombre de convertis à l'évangélisation? Ça, c'est Dieu qui fait les comptes. C'est pas nous. Et pourtant, je vous assure que les hommes font les comptes lorsqu'il y a des évangélisations. Dans le contexte de notre texte, qu'est-ce que sont les fruits? Alors, ben, on va voir. Porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? C'est la ressemblance à Christ, en fait. Ça, c'est ressembler à Christ, et c'est cette ressemblance qui glorifie Dieu. Et donc, si on reprend juste le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Donc ça, c'est quoi? C'est la prière. N'est-ce pas? Verset 7, demandez. Donc demeurez dans la prière. Au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurer dans mon amour. Donc demeurer dans son amour, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est un autre fruit. La prière est un fruit. Et l'amour aussi. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ah, je me suis trompé là quelque part. Si vous gardez mes commandements, donc ça c'est quoi? C'est l'obéissance. Garder les commandements de Dieu, c'est l'obéissance. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Il est resté obéissant à Dieu en toutes choses. Et bien là aussi, donc c'est un autre fruit. Demeurer dans l'obéissance. Et verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que demeure en vous. Donc la joie est un autre fruit. Et verset 12, demeurez, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour fraternel est encore un fruit, n'est-ce pas? Tout cela, c'est porter du fruit dans le contexte de Jean. Il y a d'autres passages qui en parlent différemment un peu. Verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je vais continuer un peu. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comment est-ce qu'on sait ce que Jésus nous commande? C'est marqué dans la Bible? Oui. Mais c'est surtout marqué dans nos cœurs. L'amour fraternel, la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est d'avoir un sourire tout le temps? Moi, j'ai travaillé dans une mission. Le dernier directeur qui est venu, il nous a dit, écoutez, il faudrait que vous ayez un sourire tout le temps lorsque vous êtes en public. Pourquoi? Pour faire semblant qu'on est joyeux? Il y a un problème. N'est-ce pas? La joie, c'est pas d'avoir un sourire tout le temps. La joie, c'est d'avoir en nous quelque chose qui, en permanence, nous fait nous tourner vers Dieu, nous fait nous tourner vers Christ, pour savoir que nous ne craignons rien, que nous sommes en sécurité en ses mains, et que si nous demeurons en lui, il n'y a pas de problème. La mort peut venir, cette mort ne peut pas retirer la joie que Dieu a déposé en nous. N'est-ce pas? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Si vous, vous ne savez pas ce que fait Jésus, alors vous êtes encore des serviteurs. Si vous, vous ne connaissez pas réellement Jésus et vous ne demeurez pas en Jésus, vous êtes encore des serviteurs. Et vous n'êtes pas les amis. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous ça. Lorsque vous êtes en apprentissage avec un maître d'apprentissage, il va essayer de vous apprendre le maximum de choses. Et là, Jésus dit, je vous ai pas appris un maximum de choses. Il dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que lui a appris de son Père, il nous l'a donné. Est-ce que seulement nous y croyons? Et c'est pour ça que nous sommes des amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, pas seulement à l'église lorsque vous y êtes, mais aussi dans vos activités professionnelles, en vacances, dans vos familles. La famille, c'est sans doute le plus difficile. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. N'est-ce pas, dans Matthieu 7, vous lisez, versets 15 à 20, Jésus dit que c'est au fruit qu'on reconnaît les vrais croyants. Et dans Jean 13, 35, il dit, on reconnaît les disciples pour l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. N'est-ce pas ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là, si on va au verset 19, on lit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Dans Jean 15, 19, Jésus identifie le monde à la haine qu'il a pour les disciples. N'est-ce pas ? Si quelqu'un a de la haine pour un disciple de Jésus, il est du monde. C'est ça que ça veut dire. Le monde aimerait ce qui est à lui. Les pharisiens étaient du monde pour Jésus. Les pharisiens vous auraient dit, mais moi, nous sommes des enfants d'Abraham. Et Jésus leur dit, non, vous êtes du monde. Parce que vous haïssez Dieu. Parce que je suis Dieu. Et lorsqu'un homme ou une femme a de la haine pour un enfant de Dieu, il est considéré comme étant du monde. C'est comme ça qu'il est identifié. Jésus identifie le monde pour la haine qu'il porte aux disciples, alors que les disciples sont identifiés par le monde, par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et au verset 21, n'est-ce pas ? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas ? Ceux qui ont de la haine sont du monde et ne connaissent pas réellement Jésus. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pour cela qu'ils persécutent. C'est pour cela qu'ils prennent le Fils de Dieu pour le mettre sur la croix. C'est pour cela qu'ils persécutent les croyants. Et c'est pour cela qu'il y a tant de conflits aussi dans l'Église. Je vais m'arrêter là. Seigneur, merci pour cette magnifique exhortation à demeurer en toi. Seigneur, merci aussi parce que c'est toi qui es le vigneron, Seigneur Dieu. C'est toi qui élagues, c'est toi qui émondes, c'est toi qui éclaircis les plans. Seigneur, nous voulons ce matin nous confier en toi. Seigneur, que la parole puisse entrer dans nos cœurs et approfondir, Seigneur, notre envie de demeurer avec toi. Même au risque, Seigneur, que tu nous déstabilises et nous déranges. Au risque, Seigneur, que tu veuilles travailler en profondeur dans nos cœurs et extraire des choses pour nous purifier. Seigneur, nous voulons, comme Jésus l'a fait, nous abandonner complètement entre tes mains. Nous voulons laisser ta parole, Seigneur, nous envahir, nous habiter entièrement. Et nous voulons demeurer en toi. Afin que tu nous parles, afin que nous sachions que tu nous aimes aussi. et que jour après jour, tu nous sauves. Dans le nom de Jésus. Amen.